Le fait est que les élections se passent dans un contexte très tendu, notamment en dehors de la capitale Luanda. Luanda a toujours été une espèce d'île, entre guillemets, au sens où c'est l'endroit en Angola où il y a eu, depuis le premier processus de paix 91-92, une certaine liberté d'expression démocratique, où on a vu apparaître des hebdomadaires privés et une presse assez critique. La radio aussi peut se permettre d'être critique à Luanda. Il n'en est vraiment pas de même dans les provinces. Et effectivement, on a eu vent d'attaques contre l'UNITA et d'autres partis d'opposition, et disons une certaine limitée à l'expression, même si les enquêtes faites suite aux accusations des différents partis n'ont pas abouti, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de condamnation. Mais ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'il y a une certaine justement culture de l'impunité, notamment auprès des jeunes qui ne savent qu'ils ne prendront aucun risque s'ils vont arracher le drapeau de tel ou tel parti, s'ils interrompent une réunion politique, s'ils mettent à sac le bureau d'un parti, etc.
Donné vainqueur le MPLA, le parti du président au pouvoir, Dos Santos, est-ce que ces élections législatives représentent pour lui un enjeu particulier alors qu'en 2009 est prévue l'élection présidentielle ?
Les élections sont là aussi pour réunir la famille MPLA, pour que le président puisse aussi garder le contrôle sur cette famille-là par la redistribution des sièges à l'Assemblée nationale, par exemple. Il y a un besoin d'accroître la légitimité démocratique de son parti et sa propre légitimité démocratique pour lui permettre aussi d'asseoir encore sa position sur la scène régionale en Afrique, où l'Angola essaie de se placer à la charnière de l'Afrique centrale entre les autres deux grandes puissances que sont le Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe. Et je pense que c'est aussi un des enjeux de ce scrutin, aussi bien pour le président que pour le parti.
Est-ce que face au MPLA, on peut parler d'une réelle opposition, selon vous ?
On ne peut pas parler d'une opposition, disons, qui serait sur un pied d'égalité par rapport au MPLA, ça c'est clair. En plus, si on parle de l'opposition en tant que telle, il faut faire aussi un petit peu la distinction, je pense, entre l'UNITA d'un côté et puis les autres partis d'opposition. L'UNITA qui a donc été l'opposant historique au MPLA, qui a mené une guerre contre le gouvernement angolais depuis 1975 pour essayer de s'emparer du pouvoir, n'est maintenant plus que l'ombre d'elle-même depuis la mort de Savimbi en 2002. Disons que l'UNITA n'a pas les moyens financiers dont elle aurait besoin pour faire une campagne plus importante que ce qu'elle n'a fait jusqu'à maintenant. Elle n'a pas non plus les cadres politiques formés au jeu démocratique dans des conditions comme celles de l'Angola. Et puis, Samakouvre n'a pas non plus le charisme politique qu'a pu avoir Jean Savimbi.
L'Angola est un pays riche qui a des ressources. Pourtant, deux tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ces élections représentent pour la population un espoir peut-être de voir leur vie changer ?
Au contraire, la mémoire des élections est une mémoire traumatisante pour une certaine partie de la population en Angola. C'est-à-dire que les seules élections qui se sont tenues, celles de 92, ont signifié non seulement le retour à la guerre, mais ont signifié 10 années de souffrance encore plus grandes que celles qui avaient été les leurs jusque-là. Ça a signifié aussi des centaines de milliers de morts, notamment dans les villes de l'intérieur du pays. Et ça a été d'ailleurs un des problèmes au moment où il s'est agi de faire le recensement électoral entre 2007 et 2008, de convaincre la population qu'il fallait aller se faire recenser. C'était pas évident aussi, et je pense que ces craintes-là avaient un rôle à jouer. Maintenant, quant aux modifications concrètes du niveau de vie des Angolais, ces élections n'apporteront rien, c'est clair.